qui a ici quelque chose d'extraordinaire, c'est que les pays, quand ils sortent d'Égypte, ils sortent avec d'énormes richesses. D'énormes richesses. Est-ce que c'est important? Et c'est d'une extrême importance. Parce que quand Moshe Rabbeinu, il fait cela, il rend, entre guillemets, service à Kadosh Baruch. Parce que là-dedans est enfoui tout le secret de l'exil. C'est la raison de l'exil, c'est de sortir avec les richesses. Alors, il y a ici un secret. Le sod nous dit à Benoari que la richesse d'un pays, elle réside dans le fait que dans ce pays, se sont répandues des énergies de Kedusha, des énergies des forces extraordinaires qui émanent de la Kedusha, qui sont enfouies dans ce pays, qui donnent à ce pays sa prospérité. Et en Israël et en Égypte, pour cette raison, c'est pour récupérer les Nitzotot à Kedusha qui se sont répandus en Égypte. De quoi s'agit-il? Alors, le Ari HaKadosh, il explique, c'est ce qu'on appelle le Hansé. Il y a quatre générations qui ont fauté. Adam Harishon, il s'est éloigné de sa femme pendant 130 ans, et pendant 130 ans, il a eu des pertes. Ces pertes-là, ce sont des Nitzotot à Kedusha qui se sont répandues. Donc, ces pertes-là sont venues dans la génération de Enoch. Ils ont commencé, Enoch, c'est lui qui a inventé la Avodah Zara. Après, ces Neshamot-là sont revenus une autre génération, c'est le Maboul. Après, ils sont revenus une autre génération, c'est le Palaga. Et après, ils sont revenus dans la génération, dans la population de Sodome qui a été détruite. Ce qu'on appelle Amsé. Ces quatre générations-là, en vérité, ce sont les âmes de Am Israël qui vont recevoir la Torah plus tard. Les 210 ans d'exil, la servitude, comme la Gemara dit, le Vayimaru et Hayem Ba'avodakasha, Behomer ou Belvenim, ce travail dur et astreignant, ça a permis de récupérer ces énergies-là. Toutes ces énergies-là vont être récupérées au fur et à mesure du travail, du labeur, de la souffrance et de l'exil, et ils vont former Am Israël. Donc, nous dit Rabbeinu Ari que l'Égypte, c'est la matrice dans laquelle se forme l'embryon, la gestation de l'embryon qui va donner naissance à un peuple. Et au moment de la sortie, le peuple, il sort, une femme, généralement, quand elle accouche un enfant petit, qui est, et là, l'enfant est adulte. C'est là, la conscience adulte qui se produit à la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte n'est pas juste une libération d'une troupe en désordre qui part n'importe comment, qui se sauve. C'est un peuple organisé, une nation organisée qui sort d'Égypte. Avec son roi, avec sa hiérarchie, les tribus, son système, ses institutions. Ils sortent organisés. Ce qui aurait fallu pour un autre peuple dans l'évolution normale d'un peuple, il faut 500, 1000 ans pour se réaliser. Am Israël réalise cela, on lui donne en un instant. C'est ce qu'on appelle Mohen de Gadlut. Donc il y a la conscience adulte et la conscience enfantine. Quelle différence il y a entre l'adulte et l'enfant? L'adulte, il comprend qu'il est là au service du système. D'ailleurs, quand un enfant, il vient au monde, alors la Gemara, elle dit, il vient au monde les bras, les poings fermés. Il dit, regardez, je viens pour saisir, pour m'affirmer, pour prendre. Et quand un homme meurt, il a les mains ouvertes, il dit, j'ai rien pris, regardez, j'ai rien pris. Ça, c'est l'enfant. L'enfant, il est dans le berceau, au moindre pleur, tout le monde est autour de lui pour s'occuper de lui. Donc, il croit qu'il est le centre du monde. C'est Mohin. Des quatre notes, c'est-à-dire que tu as conscience du monde qu'à travers toi-même. Donc, tu as réduit l'immensité de la création à ta petite personne. Mohin de Gadlut, c'est la conscience qu'il y a quelque chose qui transcende la personne. Il y a un système que l'homme, il n'est qu'un maillon de la chaîne du système immense de la puissance de Dieu qui s'affirme dans ce monde. Et on remarque que le moment de la sortie, les chiens n'ont même pas aboyé. Ça veut dire que le chien, qui est symbolisé par l'égoïsme, il aboie pour qu'on s'occupe de lui. Et lui-même, il a compris la clipate de Kelev, comme il dit le Rabbi Shimshon d'Ostropoli. Il a compris qu'il y a quelque chose qui le transcende, donc il se met en retrait. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Am Israël sort un peuple adulte. Ça, c'est donné en un seul instant. Ça, c'est nous devons bien assimiler qu'est-ce que cela signifie. Alors, qu'est-ce que l'exil? L'exil, c'est l'oppression. On n'est pas épanoui. On est confiné. C'est le cas de le dire. Le Ramchal, il commence son Sefer à Dir Bamarom par le confinement. C'est marrant, mais c'est comme ça, c'est sérieux. Il dit que l'événement qui va déclencher la délivrance d'Égypte, c'est quand Moshe Rabbeinu, il va tuer l'Égyptien. Et le lendemain, il va devoir se sauver. Et quand il se sauve, il se confine, il se réduit. Le Ramban dit qu'il a 12 ans quand il tue l'Égyptien et quand il revient, il a 80 ans. Donc, c'est quelque chose. Pendant toutes ces périodes-là, Moshe Rabbeinu va se renfermer en lui-même, va se construire à l'intérieur de lui-même pour après apparaître. Et il y a un autre individu à qui ça arrive. C'est Rabbi Shimon ben Yochai. Et Rabbi Shimon ben Yochai, il dit explicitement dans la Gemara qu'il s'est confiné dans la caverne pendant 13 ans. 12 ans plus 1 an. Et le Ramban fait ce parallèle. C'est ça la Géoula. Alors, l'Égypte, qu'est-ce que l'Égypte? L'Égypte, c'est la matrice. C'est ce qu'on appelle la Bina, la mer. Là où la vie prend forme. Alors, il y a deux Shemot à Kodesh qui travaillent en retrait sans qu'on s'aperçoive. C'est le Shem Shaddai, Shin Dalet Yod. On dit, comme la Gemara dit dans Hagiga, Shamar Le'olamo Dai, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a fixé à chaque élément de la création son domaine de compétence, sa limite. Et il y a un autre Shem qui s'appelle El, Aleph Lamed. Ce Shem El, c'est la bonté totale et parfaite, le summum total de la bonté. Il n'y a pas au niveau auquel on parle du Shem Aleph Lamed, quelle la puissance. C'est-à-dire, le mot El, c'est le nom de Dieu tout puissant qui concentre toutes les puissances. Et comment la puissance de Dieu, elle s'exprime? Par la bonté et l'amour. C'est ça le Shem El. Et au niveau auquel on parle, le Ratson, c'est-à-dire le niveau le plus haut qui peut nous être accessible, c'est le Kutso Shel Yud. À ce niveau-là, il n'y a aucune place pour aucune des rigueurs. Que de la bonté absolue. Alors, dans cette matrice, qu'est-ce qui se passe? Le El, il donne la vie. Il donne la vie sans limite. Mais, et ça se passe dans la matrice. Mais, si chaque élément se déploie et se déploie et se déploie, il n'y a pas de place à l'autre. Donc, nous avons besoin de conjuguer deux éléments, El Shaddai, pour faire en sorte que les différents éléments qui vont composer le monde, les éléments de la création, puissent exister en harmonie. Et tout ça se passe où? Dans la matrice, nous dit le Ramban. C'est le sod qui se passe dans la matrice de, et on remarque, entre guillemets, en parenthèse, que El Shaddai, ça fait Moshe. C'est la Behina de Moshe. Donc Moshe, il est l'expression du Ratson. Le Ratson, c'est la volonté, c'est dans la Kabbalah, on dit, c'est le Keter. C'est le dévoilement du Keter de Kadosh Baruch Hu, la domination, la gouvernance de Dieu. Qu'est-ce que ce Keter-là? C'est sa volonté de donner la vie. Ce Shem-là, ces deux Shemot se conjuguent et vont dans la matrice qui va donner, où les éléments se conjuguent, vont former les éléments qui vont prendre vie plus tard. C'est vrai que dans la création du monde, le Shem El Shaddai n'apparaît pas, nous dit le Ramban. Mais il apparaît, c'est-à-dire le Shem El Shaddai, il n'est pas en apparence, il travaille à l'intérieur de la matrice. Alors que Bereshit Bara Elohim, c'est après que, au moment de la naissance, quand l'enfant sort, alors Bereshit Bara Elohim. Elohim, c'est la Bina. La Bina donne la vie au monde. Et cette apparition, c'est l'apparition de Am Israël à la sortie d'Égypte. Ça, c'est le sens de la sortie d'Égypte. Alors, en un jour, nous remarquons d'ailleurs que le premier jour, il est différent de tous les autres. Le premier jour de Pessah, on fait aller à la Gadol, aller entier. Et après, ça s'arrête. Et après commence le deuxième jour de Pessah, le Homer, qui est un temps de rigueur absolue jusqu'à Arif Shavuot. Pourquoi? Parce que c'est là, c'est les Mohin de Katnout. C'est ça le sens même du décompte des Sfirat à Homer, que ce qui t'a été donné, attribué, cadeau, sans avoir rien à faire, on t'a donné, tu l'as acquis, on te le retire et tu dois procéder maintenant au travail de le réacquérir par tes propres efforts pour atteindre Shavuot. Donc ça, c'est la compréhension du Da'at. C'est pour ça que cette génération-là va être appelée Dor Da'at. Celui qui a la conscience. Da'at, ça veut dire avoir la conscience. Et pas une conscience réductrice, une conscience adulte. Donc nous sommes là, dans cette conscience. Le jour de Pessah, nous devons prendre conscience que nous sommes au service d'Akadosh Baruch. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch nous a donné la vie pour que nous nous mettions à son service. Il n'y a rien d'autre à part ça. Comment prendre conscience de ça? Alors, il y a en premier l'élimination du Hametz. Donc, on sait qu'en Égypte, par exemple, en Égypte, on donnait à manger du Hametz, le pain normal. Un homme normal, il mange pas de galette. Un homme normal, il mange du pain, du vrai pain. Le pain, la galette est donnée aux esclaves. Alors, la question qui se pose, c'est que quand on sort d'Égypte, alors au lieu d'aller manger de la galette, qui était le pain de la servitude, on aurait dû manger du vrai pain. Comment ça se fait que quand la Torah nous oblige à manger du pain d'esclavage? C'est pas logique. Si quelqu'un, il a été prisonnier pendant des années, et il n'a pas mangé telle ou telle chose, dès qu'il est libéré, il va vouloir retrouver le goût de ce dont il a été privé. Et là, on voit que c'est exactement le contraire. Donc, il y a ici lieu de comprendre qu'est-ce que ça veut dire le hametz, qu'est-ce que ça veut dire le levain. Le hametz, il y a deux sortes de hametz. Il y a le hametz et le levain, le séor. Le séor lui-même, il est para ou il est achila, mais il peut être mehamea isot aherot. Il peut rendre hametz autre chose. Tandis que le hametz lui-même est consommable. Donc, il y a deux facettes dans l'expression de la matérialité et de l'homme quand il s'affirme dans ce monde et il va donner libre cours à ses désirs, à ses passions sans aucune retenue. Ça, c'est le concept même de la sortie d'Égypte. Alors, on doit éliminer le hametz. Après cela, on doit faire le Corban de Pessah. La sortie d'Égypte, elle est pratiquement la seule mitzvah qu'ils ont à accomplir, c'est Corban de Pessah. Donc c'est une alliance qui se produit entre Akadosh Baruch Hu et Israël, et elle est double. Elle est d'une part le Corban de Pessah et d'autre part la Brit Mila. Donc il y a deux choses ici qui sont complémentaires, qui contiennent toute la Torah Kula. Et nous devons procéder le sort de Pessah à cette prise de conscience. Prendre conscience de la conscience adulte. C'est pour ça que tout le Seder de Pessah, il est question-réponse. Alors, on va placer le Seder, le plateau du Seder. Le plateau du Seder, il comporte 10 éléments. Donc, on sait 3 matzot. Pourquoi on prend 3 matzot? Faut poser la question, pourquoi 3 matzot et pas 2? D'accord? C'est étonnant. 3 matzot. Après, il y a les autres éléments qui sont l'œuf, le zeroa, la betsa, le maror, le karpas et le haroset et le hazeret. Et le plateau lui-même, c'est le 10e. Donc, il y a 10 éléments qui constituent la structure de l'homme. Et ces 10 éléments-là, il va falloir les travailler justement pour acquérir cette conscience. C'est pas juste on raconte ce qui s'est passé. C'est le processus de la prise de conscience, comme ils disent Mkoubalim. C'est au fur et à mesure du CDR, on va procéder à une prise de conscience de ce qui se passe ce jour-là. Alors, on va procéder d'abord par le kiddush. Qu'est-ce que ça veut dire faire kiddush? C'est une vraie question. Même Shabbat, on fait kiddush. Qu'est-ce que ça veut dire faire kiddush? Alors, il est marqué, Zachor et Yama Shabbat et quelque chose, Ocheu, Bitvarim, Bitvisato, Bitsiato. Tu dois mentionner la sanctification du Shabbat à l'entrée et à la sortie. Mais Shabbat, il est kadosh de lui-même. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, de proclamer qu'il est saint? Le fait de déclarer cela, ça ne va rien changer à la nature même du Shabbat. La même chose. Le soir de Pessah, je vais faire kiddush. Et donc, je vais déclarer que ce jour est un jour particulier, c'est le jour de ma naissance. Mais c'est un jour qui existe. Il va rien avoir de particulier comme par ma déclaration. Est-ce que ma déclaration va produire quelque chose? Alors, c'est vrai. Ça produit, c'est pas la même chose. Quand on dit, par exemple, la question fameuse, Akadosh Baruch Hu, il est où dans ce monde? Alors, les gens, généralement, ils répondent, Akadosh Baruch Hu, il est partout. Bon, c'est possible que Dieu, il est partout, mais en vérité, il est pas partout. Akadosh Baruch Hu, il est dans son monde, partout. Mais dans mon monde, à moi, est-ce qu'il est partout? Donc, il y a deux mondes. Chacun d'entre nous a un monde. Est un monde et a son domaine de où il évolue. Il a son propre monde. Quand je fais kiddush, je vais faire adhérer mon monde à moi, mon Shabbat à moi, le temps, mon segment de temps qui est mon Shabbat, je vais le calquer sur le temps que Akadosh Baruch Hu a qualifié de Shabbat. Je lui donne cette dimension d'éternité. Ça, c'est en faisant le kiddush. C'est-à-dire que je déclare que mon temps, qui est un segment de temps qui s'appelle Shabbat, qui est le mien. Ce temps-là, il va pénétrer dans le temps général, du temps universel du Shabbat, tel que Akadosh Baruch Hu l'a défini. C'est-à-dire que j'adhère, c'est comme si que j'adhère à ce que Akadosh Baruch Hu a fait. Et ça, c'est d'une importance capitale. Parce que cette notion-là, elle se retrouve dans l'annulation du Hametz. C'est étonnant, il y a quelque chose d'assez épatant quand on fait bitul chametz. Alors, on a une bouteille de whisky qui peut valoir cher, 100 euros par exemple, et je fais une déclaration, je dis, le whisky là, qui est là, qui vaut 100 euros, il est de la poussière. Et comment ça marche? Ça ne marche pas. Si je prends une porte et je dis, la porte, c'est un arbre, la porte, ça ne deviendra pas un arbre. Si je prends de l'or, et je dis l'or, c'est de la pierre, l'or, ça va pas changer d'état. Comment ça marche? Alors là, les Rishonim disent que la Torah, elle a déclaré qu'à l'instant où Pessah rentre, ça veut dire à la mi-journée du 14 Nissan, le Hametz, il est de la poussière. Il vaut rien. Et quand moi je déclare cela, j'adhère, je déclare, je confirme ou je déclare adhérer à ce que la Torah a décrété. C'est pour cela que mon bitoul a une valeur. De la même manière que j'annule par mon bitoul le Hametz qui est quelque chose de très important dans le monde, puisque nous avons dit que les hommes libres ne mangent pas de la matzah, ils mangent du Hametz. Ce Hametz qui est très important, c'est pourquoi le monde est en action. Ce Hametz-là que la Torah, le jour de la libération, elle annule, moi j'adhère à cette annulation. Je confirme, j'adhère entièrement, sans aucune retenue, à cette annulation. C'est comme ça que le Hametz, il s'annule. La même chose. Quand je déclare que c'est Shabbat, le monde, il continue à travailler. Le monde continue son monde. Le monde des hommes continue. Mais mon monde à moi, n'appartient plus au monde des hommes. Il appartient au monde, à une autre dimension du monde qui est celle de Dieu. C'est un autre monde. Il en va de même pour le sort de Pessah. C'est-à-dire que prendre conscience de la conscience adulte, c'est se sortir. Adulte, ça veut dire prendre de la hauteur. Adulte, ça veut dire se mettre au service d'eux. Avoir une perspective dans l'histoire, dans la destinée. Comprendre des choses avec hauteur et voir les conséquences des choses. La hauteur, l'intelligence, le da'at, la conscience réelle des choses. Cette notion-là, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Aliyat Ha'olamot. C'est-à-dire que le Shabbat, en fait, c'est le jour le plus bas de la semaine. Il ne produit rien. Le plus haut, c'est le dimanche. On produit, c'est le Hesed. Si on prend par rapport au Avot HaKedoshim, la semaine se divise en 6. Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe et Aaron, et Yosef. Le Shabbat, il n'a rien. Le Shabbat, si tu ne prépares pas la veille, tu n'auras rien à manger Shabbat. Donc, avec le Shabbat, il n'a rien, il reçoit. Mais comme toute la semaine se déverse, les énergies de la semaine se déversent dans le Shabbat, alors c'est le concept même de la royauté. Le roi David HaMelech, il dit « Aro Mimcha Hashem Kidilitani, toi, Kadosh, moi j'étais au fond du puits et toi tu m'as levé. Et quand tu m'as élevé, tu m'as sorti du fond du puits, tu m'as mis au-dessus. » Donc lui, il n'a rien. Alors comment on désigne le roi? On désigne le roi, le prophète désigne le roi et le peuple doit accepter. Quand le peuple accepte que ce bonhomme-là, il va être roi, alors il lui confère ses énergies. Donc, c'est comme si que les individus déversent leur force, leur puissance, leurs énergies en ce roi. Et tout d'un coup, ce bonhomme-là, qui n'était juste qu'un simple individu, il devient un personnage qui englobe la nation entière. Et il prend et il va s'élever au-dessus. C'est ce qu'on appelle Aliyat Ha'olamot. Le Shabbat qu'il reçoit de la semaine, quand il reçoit les énergies de la semaine, il va, il s'élève, il était en bas, le receveur. Il s'élève et il monte et il devient la couronne du système. C'est ce qu'on appelle Aliyat Ha'olamot, c'est-à-dire que tu sors d'une dimension réductrice, petite, à une dimension qui englobe tout le système. C'est ça, tout le Avodat Hashem, en fait, elle réside dans cette Nekuda-là. Avoir une vision, qui est une vision objective, et avoir quelle position je vais avoir, moi, qu'est-ce que je peux, comme même l'égoïme, il pense là, qu'est-ce qu'un homme il peut apporter à la société par rapport à l'intérêt général. Donc, cette prise de conscience, c'est pour ça que tout le système de la Haggadah, il va être question-réponse. Alors, on va mettre 3 matzot. Pourquoi on ne met pas 2? C'est une bonne question. Juste pour poser une question. Donc, dès qu'on va poser la question, on va se dire, pourquoi il y en a 3? Ben, je ne sais pas pourquoi il y en a 3. Alors, on va vous dire, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Kohanim, Lévim, Israël, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi il y en a 3? Parce que la matzah, elle est coupée. Et comme il faut faire 2 matzot entières, alors il y a une qui est coupée, on va pas faire une matzot et demi. Alors on met 3. Mais en vérité, ce 3-là, il sort de l'ordinaire, justement pour qu'on pose la question. Après, on dit pourquoi on coupe la matzot? Et c'est étonnant, pourquoi Shabbat tu la coupes? Parce que la matzot, bien que tu vas la payer 20 euros, 30 euros le kilo, elle est qualifiée de lehem oni. Lehem, le pain de pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire le pain de pauvreté? En vérité, c'est le pain qui contient peu d'éléments. La Gemara, elle donne 4 réponses, 4 raisons pourquoi le matzah, il est appelé lehem oni. Lehem shonim alav dvarim marbe. C'est le pain de la réponse. On va donner beaucoup d'explications. Onim, on répond. C'est le pain qui est rapide, qu'on ne laisse pas lever. Parce que ma'ani ou il n'a pas le temps, lui. Le pauvre, il n'a pas de combustible pour charger son four. Donc, sa femme, elle pétrit, il met directement au feu, il fait cuire, il n'a pas. Donc, c'est rapide, on ne laisse pas le temps au pain de lever. Il est pauvre en composants. Et ça, c'est la raison pour laquelle on appelle ça l'echem en. Donc le Gaon de Vilna au début de la Gana, il explique ces quatre éléments-là. Donc là aussi, ça nous interroge. Alors pourquoi on mange de la matzah alors qu'on aurait dû manger du pain? Après on fait le carpas. Pourquoi faire le carpas? Il n'y a aucune raison pourquoi on mange le carpas. Le carpas, il est là juste pour susciter l'interrogation de l'enfant. Et ainsi de suite. Donc on remarque donc de manière certaine que tout le système, il est fait de telle manière qu'on s'interroge. Il faut s'interroger. Et c'est la raison pour laquelle l'importance de ce soir, c'est là où on apprenait à nos enfants le Yesod Emouna. C'est-à-dire, les gens, ils n'allaient pas à l'école. Comment j'apprends la Emouna? Comment on apprend la Emouna? Alors, tu fais le Seder de Pessah, et le père, il raconte la sortie d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte comment on lui a raconté. On raconte une histoire. On lit la Agada, au bout d'une heure, on a fini, on passe à table. Il dit, mais quelle Emouna tu as pu transmettre à tes enfants? Alors, sache que Haya, Vadam, Leharot, Etasmo, Kilou, Hu, Beratson, Yatsem, Yatsem. L'homme, il doit montrer que c'est lui-même qui est sorti d'Égypte. C'est-à-dire qu'il a une telle conviction. Quand il va raconter les miracles, c'est comme si il raconte du vécu. Ça, c'est la prise de conscience adulte. C'est-à-dire que, mais ce qu'on dit dans la Gada, c'est que si j'étais pas sorti, j'y serais encore. Est-ce que c'est possible qu'on y serait encore? Oui, on y serait encore. Est-ce que tu es convaincu de ça? Que si on n'était pas sorti avec Moshe Rabbeinu il y a 3300 ans, on y serait encore. Je suis pas sûr qu'on soit vraiment convaincu de ça. Il faut travailler sur cette Nekuda-là. Si quelqu'un, il assiste à un événement. Une fois, il y a eu un attentat quelque part, j'ai vu aux infos, le type, il raconte, le speaker, il raconte l'attentat avant, il raconte les événements. Et tout d'un coup, il envoie son envoyé spécial, il dit, voilà, j'ai quelqu'un, un témoin. Il fait parler quelqu'un qui a assisté. On voit que la différence, il raconte la même chose. Mais celui qui a assisté, il raconte avec ses émotions, avec sa force, avec sa conviction. On voit qu'il, c'est véritablement, il a assisté aux choses. Donc, il raconte du vécu. C'est ça, raconter la sortie d'Égypte, il s'agit de raconter du vécu. Il ne s'agit pas, certainement pas, de raconter une histoire qu'on t'a racontée. Une histoire, c'est une légende ou une tradition. Il s'agit de raconter du vécu, réellement du vécu. Et ça, c'est d'une importance capitale. Si on n'a pas saisi cela, alors on n'a pas transmis l'essentiel de ce qu'on doit transmettre le soir de Pessah. Ça, c'est un point extrêmement important. Alors, l'essentiel de la sortie se fait par Moshe Rabbeinu. Donc, nous avons dit, Moshe Rabbeinu, il va dévoiler sa forme en éliminant l'Égyptien par la parole, par la force de la parole. Alors, avec quel Shem il a tué? C'est intéressant. Nous avons dit que Dieu, il a créé le monde avec le Shem Shukai, Shin, Dalet, Yod. Il y a un Shem qui vient après ce Shem-là. Après le Shin, il y a le Tav. Après le Yud, il y a le Kaf. Et après le Dalet, il y a le He. C'est ce Shem-là. Quand Moshe Rabbeinu, le lendemain, il va dire, pourquoi tu frappes ton copain-là? Il dit, allez, organi à ta mère, car tu parles de me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Il dit, comment il a tué l'Égyptien? Taqué. Lama taqué, le mot taqué, taf, kaf, he, c'est le Shem Kadosh avec lequel il a tué. C'est les lettres qui viennent juste après le Shem Shakai. Ça veut dire, ce Shem-là, il empêche les éléments, les énergies de se répandre. Il les concentre. La Ka'a, le fait de frapper, voyons, mère, la racha, l'âme attaquée, le racha, il frappe son prochain, mais en vérité, il frappe celui qui lui est comme lui. Empêcher, quand on va frapper, on empêche de frapper, c'est-à-dire on retient les énergies. On empêche les énergies de se répandre, de se disperser, de s'éparpiller. Ça, c'est le Shem Shakai. Et ce Shem, avec ce Shem-là, il a tué le Racha, parce que le Racha, il ne supporte pas. S'il n'y a pas d'énergie qui lui sont conférées, il disparaît. Donc, c'est avec le Shem, ce Shem-là qu'il a tué. Et ce Shem-là, il a une force extraordinaire. C'est le Shem qui est marqué de manière récurrente dans le schéma. Remarquez, Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Il revient souvent. C'est un Shem qui chasse les forces néfastes négatives. C'est-à-dire que les forces de la Touma, elles n'ont pas d'existence propre. Elles ne vivent que des pertes qui sont causées par l'éparpillement des Nitzotot. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu, il a récupéré ça. quand il récupère cela, il est obligé de se sauver. Parce que maintenant, à partir de ce dévoilement-là, il doit construire la délivrance. La délivrance se construit. Et c'est ce qui va se passer pour Rabbi Shimon ben Yochanan. Et on remarque que c'est exactement ce qui se passe actuellement. Nous sommes confinés. Le concept même d'être renfermé sur soi-même, renfermé à l'intérieur, de se retrouver soi-même, de sorte d'atteindre cette conscience adulte, nous devons atteindre la conscience adulte par la réflexion par rapport à nous-mêmes. Généralement, les gens, ils font la Avodat Hashem, ils sont à la synagogue. C'est très difficile dans la période actuelle, c'est très difficile pour quelqu'un qui vit en Keïla, le Am Israël, les gens religieux en particulier, ils peuvent pas vivre en individualité. Ils vivent en Keïla. Donc alors quand on vit continuellement en Keïla, la Tfila, on ne peut pas faire la Tfila seul. C'est impossible. On ne peut pas vivre seul. On est obligé, le CDR, on est obligé de faire à plusieurs. C'est tout ce qu'on fait dans les Torah en mitzvot, on le fait en Keïla. Mais ça, c'est un double. Il y a du positif, évidemment, mais il y a aussi du négatif. C'est que tout ce que l'on fait, on le fait par rapport au regard des autres. On a vécu des années dans le ghetto. Donc, on agissait de telle sorte parce qu'il y avait le regard des autres. Mais est-ce que nous-mêmes, nous sommes en harmonie avec nous-mêmes dans ce que nous faisons? Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, il quitte ce monde, il se sauve, il rentre dans sa grotte et il va se retrouver lui-même. Il va se trouver lui-même dans sa construction individuelle. Et c'est que quand on va chercher, comment on dit, les Chachaim qui disent que il y a des périodes dans l'histoire où les rabbinim, ils n'avaient plus de livres, ils n'avaient pas de livres. Alors ils étaient obligés, ils n'avaient que le minimum, ils n'avaient pas de chasse, ils n'avaient pas. Et comment ils ont fait pour étudier? Donc ils ont été aux fondamentaux et ils ont puisé en eux-mêmes les ressources pour dévoiler d'autres chidouchim. Quand il n'y a qu'un chumash, bien quand il n'y a qu'une gemara, il n'y a aucun rishon, aucun haro, rien. Donc tu es obligé de casser la tête pour dévoiler, faire jaillir la lumière du texte. Donc ils vont chercher au fond d'eux-mêmes les lumières qui sont enfuies. C'est ce qu'il a fait Rabbi Shimon, c'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. C'est ce que nous devons faire à l'intérieur de ce confinement. Arriver à faire jaillir cette lumière qui est en nous. C'est en vérité notre relation avec Hachem. En vérité, la Neshama, comme disait Mkoubalim, tout est contenu dans la Neshama. La Torah entière, elle est contenue dans le Shoresh Neshama. La Torah, elle est en nous. Il va marquer que VRTVA Alouach Libéchem. Je vous l'écrirai sur la table de votre cœur. Donc, dans la Neshama, il y a tout, en fait. Il s'agit de faire jaillir cela. Faire jaillir cela avec une conscience, encore une fois, une conscience adulte. C'est-à-dire adulte, ça veut dire par rapport en harmonie avec soi-même, en étant en équilibre avec soi-même, vis-à-vis de ce que Kadosh Baruch Hu, il réclame de moi et ce que je suis prêt à faire pour le satisfaire. Ça, c'est essentiel. Et c'est ça la base de la Emouna. Donc, tout se réduit à la réflexion, à la connaissance. J'ai fait la remarque ce matin à quelqu'un, le Ramchal, dans Da'at Tevunot. Aujourd'hui, on n'a pas l'habitude d'écrire des livres en dialogue. Le Ramchal, il a écrit beaucoup. À leur époque, on écrivait en dialogue. Alors, qu'est-ce qu'il écrit, le Ramchal? Le dialogue entre qui et qui? Alors, une fois, il a marqué Hoker Umkubal. Une fois, c'est le chercheur et le kabbaliste, le philosophe et le kabbaliste. Une fois, c'est le rav et le talmid, etc. Mais dans Da'at Tevunot, c'est la discussion entre la neshama et le sechel. Et on remarque que qui est-ce qui pose les questions? Donc, dans le rav et le talmid, c'est le talmid qui pose la question au rav. Dans le hoker et le mkoubal, c'est le hoker, celui qui veut apprendre, qui demande au kabbaliste, explique-moi. Mais dans le neshama et le sechel, qui détient le savoir? Eh bien, c'est étonnant de constater que c'est le sechel qui c'est le savoir, c'est le sechel, l'intelligence qui est qui a, C'est la Neshama qui interroge le Sechel. Elle lui dit, je veux, apprends-moi les bases de la Emouna. Donc tout réside dans l'intelligence. Okay. C'est dévoiler cette intelligence-là. C'est ça que nous devons comprendre. Alors nous allons procéder à cette prise de conscience. Donc encore une fois, trouver la raison pour laquelle nous procédons à ces étapes. Alors il y a Arba Kossot. Alors quel est le secret du Kos? Qu'est-ce que c'est le Kos? Pourquoi on boit 4 verres? On aurait pu se contenter d'un seul verre. Quel est le secret dans le verre? Alors nous dit Chachamim, le Yerushalmi dit qu'il y a 4 étapes de la Géoula qui est marquée dans la Paracha. Veotseti, Veitzalti, Vegalti, Velakati. Vegalti. Donc il y a 4 éléments, comme la Gemara elle dit dans Rosh Hashanah, que la délivrance se fait par étapes. 4 étapes, et de même que la délivrance totale, elle se fait aussi par 4 étapes. Ce sont les Arba Malchuyot, les Arba Galuyot. On est sorti d'Égypte. Mais l'Égypte, c'est une délivrance globale du concept de la servitude. Et après cela, nous devons sortir des 4 exils. Donc, les 4 exils, c'est les 4 Kossot. Le Kos lui-même, donc il y a un Yesod dans, il faut savoir aussi que nous aurions dû rester en Égypte 430 ans. 430, c'est 5 fois Elohim. 5 fois 86, ça fait 430. Nous sommes restés 86 ans oppressés. Nous sommes restés 210 ans étrangers, 117 ans esclaves, et 86 ans oppressés. Donc, il manque 4 fois Elohim. C'est Shmat. 4 fois 86, ça fait 344. C'est le Shmat, Dora Shmat, c'est l'extermination. Et pour sortir de là, nous sommes sortis par Moshe Rabbeinu qui est 341. El Shaddai. Les Kossot, en fait, sont un processus d'accélération de la Géoula finale. C'est pour ça qu'on boit Arba Kossot. Arba Kossot, Keneged Arba Géoulot. Alors le premier, il est d'une importance capitale parce que il inscrit que ce jour-là de Pessah, il est le déclencheur, le premier déclencheur du concept même de la délivrance, qui doit après se produire à plusieurs reprises, 4 fois. Kadesh, après on lave les mains. Pourquoi on lave les mains? Bémet, c'est une bonne question. Beaucoup de poskim, Mishnah Berurah lui-même, il s'interroge pourquoi on lave les mains. Voilà que si on mange moins que kazaït, même si on mange un cornichon, trempé dans de l'eau, mais moins qu'un kazaït, on n'a pas besoin de faire netila. Et là, on fait netila. Donc, la question de faire netila, ça aussi, c'est un vrai problème. On remarque que la netila, elle est là juste pour qu'on pose la question, pour qu'on s'interroge. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Carpas, on mange le carpas, comme on l'a dit, on ne sait même pas pourquoi. Pour que l'enfant, pourquoi on trempe 2 fois, l'enfant va demander. Juste pour poser la question. Mais en vérité, l'enfant, c'est nous. C'est nous qui devons nous interroger. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Qu'est-ce qu'il y a de particulier qui s'est passé? Pourquoi la Torah elle a tellement insisté de 50 fois à la mentionner la sortie d'Égypte pour qu'on fasse ce soir-là qui est un soir exceptionnel? Parce que le 50, encore une fois, c'est Nuncha Rebina, c'est les 50 portes de la connaissance. Donc l'essentiel, c'est d'atteindre cette connaissance. Et ça, le concept même de Moshe Rabbeinu. Kadesh Ofak, Karpas. Donc, Karpas, c'est simple, c'est Shishim Ribo Abdou Beparer. Nous avons été asservis 60 myriades. Karpas, c'est-à-dire Parer, à l'envers. Sa mère, c'est 60, c'est 600 000 juifs. Et le reste, c'est par erreur. Par erreur, c'est avec un asservissement difficile. C'est parce que nous avons été asservis avec dureté que nous sommes sortis avant le temps. Karpas, ou l'haz, karpas, après on est à haz. Pourquoi on coupe la matzah? Parce qu'on a dit c'est l'ehem oni. L'ehem oni, ça veut dire c'est le pain de la réponse, le pain de l'interrogation, le pain de la remise en question, le pain qui suscite la question, le pain qui suscite la réponse. Kadeshul Haskarpas, Yahat. Après, on fait Magid. Et l'essentiel, c'est le Magid. Mon Rabbi Rabota, l'essentiel, c'est le Magid. Comme nous avons dit, si tu racontes ta sortie d'Égypte comme si tu racontes une légende qui s'est passée il y a 3300 ans, on n'a pas accompli réellement la mitzvah. C'est vrai que la mitzvah, elle peut être accomplie simplement, comme il dit Rabban Gamliel, il dit trois choses, Pesach, Matzah, Omaror. Celui qui n'a pas dit ces trois choses-là, il n'est pas acquitté bien de la mitzvah ou il n'est pas acquitté entièrement de la mitzvah. C'est vrai. Donc, il y a un minimum. Alors, les rishonim, ils disent pourquoi on ne fait pas la bracha sur le fait de raconter la sortie d'Égypte, parce qu'avec le guidou, j'ai accompli la mitzvah. Donc, il n'y a pas de... Le Rajma, il dit qu'on ne fait pas une bracha, on n'a pas institué une bracha sur quelque chose qui n'est pas défini de manière parfaite, entière pour tout le monde. Tu peux dire trois mots, tu peux dire des midrashim entiers, tu peux dire beaucoup de choses. Il n'y a pas de limite. Chacun, il accomplira la mitzvah telle que, selon sa da'at, selon sa conscience, selon sa compréhension des choses. C'est donné à chacun. Et plus tu racontes, et plus arrêté meshubah. C'est-à-dire quoi meshubah? C'est-à-dire le din de louange. C'est-à-dire quoi cette histoire de din de louange? Où tu as fait la mitzvah, où tu as fait la mitzvah, où tu n'as pas fait la mitzvah? Dit c'est le shevar qu'un homme peut se louer, mais autres italel amitalel askel via doauti. Plus tu racontes, plus tu prends conscience de ce que c'est Pessah. Plus tu racontes, plus tu vas approfondir, plus tu vas analyser, plus tu vas le raconter, plus tu vas le détailler. Ça va te venir des chidushim, encore des chidushim, mais donc tu prends le chidush. C'est pas un chidouche juste pour dire un chidouche. Ça n'a aucun intérêt. Le chidouche, j'ai appris ça de Rav Moshe Shapira, la Shalom, il y a des années. Il a dit une fois un chidouche qui m'a changé la vie. C'est-à-dire qu'il dit un chidouche, et ce chidouche-là, il te donne une énergie, une ouverture sur l'application, la compréhension des mitzvot au quotidien. C'est-à-dire, le chidouche, il n'est pas juste un chidouche pour dire un chidouche, j'ai dit un truc assez sympathique. Non, c'est que je sors avec ce chidouche, et à partir de là, on m'a insufflé une énergie nouvelle dans l'application de telle ou telle autre mitzvah. Je vois le monde différemment. Ça, c'est le chidouche. Et l'essentiel du chidouche, c'est la sortie. Nun sha'are bina shiniftahi. C'est d'une importance capitale, encore une fois. Parce que c'est conscience adulte. La conscience adulte. C'est-à-dire avoir, prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Par rapport à notre propre destinée individuelle. Par rapport à la destinée globale de Israël. Par rapport à l'évolution. Vers où vers quoi nous voulons atteindre. Ce que nous voulons atteindre. C'est quoi notre objectif. Tout ça, il faut savoir le mettre en application. Alors, on va solidifier, affermir notre émouna. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais faire une bracha, je vais la faire avec ferveur. Quand je vais manger la matzah, elle est nehama, nehama de nehmanuta. C'est le pain qui quand on le mange, on introduit en nous la imuna, le pain de la guérison. Gasvata le Zohar, il dit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que la mitzvah, en fait, la mitzvah, elle contient, mitzvah, c'est des énergies de Hashem Abaya Baruch Hu. Le même tzadik, il se change en yutke. Et le vavke, il est vavke. Quand on fait une mitzvah, on fait jaillir. La mitzvah, c'est des canactes. Tu manges un morceau de pain, tu manges un morceau de pain. Tu manges un morceau de maror, tu manges un morceau de maror. Mais toute cette valeur de la mitzvah, sa mitzvah là, elle contient l'énergie. J'ai l'habitude de dire que la mitzvah, c'est un écrin. Quand tu mets les tefillines, la boîte des tefillines, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte qui contient des énergies. Quand tu mets les tefillines, tu dois faire jaillir les énergies. Tu dois t'en imprégner. les énergies vont te porter. Donc, c'est pour ça qu'on fait la bracha. C'est pour ça que quand on mange la matzah, alors on va manger la matzah avec plaisir. Parce que la matzah, c'est pas juste un morceau de matzah. C'est des énergies contenues de manière extraordinaire que lorsqu'on le mange, ils produisent ça produit un koah extraordinaire qui est en nous, qui va nous ouvrir, qui va nous guérir de tous les maux. Les maux de l'attachement à la matérialité, le désir de pouvoir, le désir de posséder, le désir de nous affirmer, le désir de nous sentir supérieur, etc. L'homme dans sa faiblesse. Et il va se réduire et il va comprendre qu'il est là parce que l'homme aussi, c'est un chien. L'homme aussi se comporte, il aboie tout le temps, il pense qu'il est là pour prendre la place, comme ils disent, la nature horreur divine. Mais le chien, c'est Kelev, c'est Ben. Le Ben, c'est le Ben Adam. Il aboie, il veut s'affirmer. Et quand plus il s'affirme, plus il pousse de dehors, il prend la place. Donc et là, il va se réduire, laisser la place à Dieu. Parce que Rabotenu, ils ont dit, quand la Kovia Makom les Tfilato, Eloé Avraham Be'ezo. Qu'est-ce que ça veut dire Makom? Quand tu viens pour faire la prière, quand, en général, Tfila, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le kesher que l'homme il a avec Kadosh Baruch Hu. Quand il fait la Tfila, il est Kové à Makom. Il va faire une place. Une place à qui? Makom, c'est Dieu. Mais comment chez l'Olam? Quand la Kové à Makom, les Tfilato, à ce moment-là, il va fixer un lieu, un endroit, dans une dimension, dans son monde à lui, dans son propre monde. Un Kadosh Baruch Hu, il lui laisse la place. Et le Avraham Be'ezro, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il lui vient en aide. Parce que il a fait la place à Dieu. C'est ça la mitzvah. Donc ça, c'est par rapport à la tfila, par rapport à la mitzvah aussi. Tu manges la matzah. Quand on mange la matzah, alors il faut avoir la conscience que cette matzah-là, ce sont des énergies exceptionnelles qui vont guérir l'homme de tous les attachements de la matérialité. Ça va le détacher de Hetaïgel et il va se réduire à sa réelle dimension qui est un être tout petit, faible. On le constate aujourd'hui. Donc, c'est ça l'essentiel de la Haggadah. Dans la Haggadah même, il y a un épisode très important qu'on fait pas attention. C'est la réunion à Bnei Brak. La réunion à Bnei Brak, de Rabbi Akiva, le rab de Bnei Brak, c'est Rabbi Akiva. Et on a ici les rabbins qui sont réunis à Bnei Brak, qui sont venus chez Rabbi Akiva. Et qu'est-ce que Rabbi Akiva? Qui est Rabbi Akiva? Qui sont les rabbins qui sont? Rabbi Elazar ben Azaria, il est nassi. Rabbi Tarfon, c'est la puissance économique. Il était très riche. Rabbi Oshua et Rabbi Eliezer, ce sont les deux écoles, les deux écoles de la Torah. Il y a Beth Hillel et Beth Shammai. Et Rabbi Akiva, il est au milieu. Donc tous ces gens-là, ils vont lui conférer à Rabbi Akiva le pouvoir. Ils lui donnent le pouvoir. Rabbi Akiva, c'est un messianiste. Il veut. Rabbi Akiva, il était persuadé que Bar Korba, il va reconstruire le temple. Donc, il lui confère donc le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir de la Torah, les deux écoles de la Torah. Il lui concède, lui donne le pouvoir d'aller pour amener la délivrance. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée qui a marqué dans ce Bnei Brak. Il y a beaucoup de commentateurs qui expliquent. Mais l'essentiel, c'est que d'un point de vue rationnel, Rabbi Akiva, il est celui qui nous transmet la Torah. Comme il dit Rama Mifano dans Hikur Hadin, que toute la Torah qui nous est parvenue, comme la Gemara elle dit, la Mishnah, le Seder Olam, tous les darim de Torah Sheber Alpé qui nous sont parvenus, Kulewa les bas de Rabbi Akiva. Tout ce Rabbi Akiva, il est le truchement par lequel nous est transmis la Torah. Et cette Torah, la Torah Akiva, c'est la Torah qui amène à la Géoula. Ça, c'est l'essentiel. C'est comment amener à travers, et on voit que Rabbi Akiva, son élève, c'est Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, il a écrit le Zohar. Et dans le Zohar, c'est marqué, avec ce Sefer-là, ce Sefer qui sortira, vous sortirez du Galout. Par ce Sefer, par le dévoilement des sodotes de la Torah que vous sortirez du Galout. Alors, il faut arriver à cette prise de conscience. Nous sommes dans une situation où la majorité des gens sont perdus. Les événements que nous vivons sont des événements exceptionnels, c'est vrai, mais combien de gens sont perdus? Et les gens essayent de raffermir, s'attacher à quelque chose. À quoi pouvons-nous nous attacher? À la lumière de la Torah. Mais pour nous attacher à la lumière de la Torah, nous devons prendre de la hauteur. Il est indispensable de prendre de la hauteur. La hauteur, elle se prend quand on se réduit. Plus l'homme il se réduit, plus il va comprendre la grandeur de la Torah. Chaque mot de Torah, je vous enverrai le commentaire l'explication que j'ai écrite depuis plusieurs années déjà sur Rab Shimshon d'Ostropolis, sur la fameuse lettre. Et vous verrez là-bas, dans son commentaire, que chaque mot de la Haggadah, il contient des Hidushim extraordinaires. Des choses insoupçonnables. Même le nom des rabbins, il contient des secrets. La moindre lettre, elle contient des secrets. Chaque mot, il contient un secret. Et que quand on lit la Haggadah en vérité, on dévoile ces secrets. Donc, on prend conscience d'une dimension insoupçonnée dans cette Haggadah-là. C'est les kohot à Kdusha qui jaillissent avec une puissance telle qu'ils éliminent toutes les forces négatives. Comme nous avons dit, le Hametz, c'est l'attachement à la matérialité. Nous devons nous détacher de ça. Comme il dit Rabbi Yitzhak Raver, il dit que quand tu élimines la nature des choses, c'est de laisser le pain fermenter. Quelqu'un normal, il pétrit son pain et il laisse le temps au temps. Donc le pain va gonfler, va fermenter, et la pâte va devenir du pain. Quand je sors d'Égypte, je ne laisse pas le temps agir. Je court-circuite le temps. C'est ça l'idée, pour ça qu'il y a marqué « Behipazon ». C'est-à-dire que vous êtes sorti vite. C'est-à-dire pas vite. Vous êtes sorti, et alors que normalement la sortie doit prendre un temps, le temps que doit prendre la sortie, il a été rétréci. C'est comme si que ce qui doit se faire en 100 ans, il se fait en une heure. C'est ce que nous aurions dû produire nous-mêmes quand nous sommes partis en exil. Comme le Zohar, un Zohar terrible. Il ne faut pas raconter ça à beaucoup de gens parce qu'ils vont être désespérés. Le Zohar dit, dans Parashat Pekoudé, à la page 227, il dit que mon cher Rabbeinu, il avait des vavim, il a oublié des shkalim. D'accord? Il y a 1000 et quelques shkalim qu'il a oublié. Alors, il voit ses lettres, il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Mais, ça va vim la amoudi. Donc, il y avait un élef. Là-bas, le Zohar, il parle du un élef. Il dit, c'est quoi ce élef, là? Il y a marqué, il y a aussi un élef, les rachelom. Alors, il dit, il y a deux sortes de élef. Il y a un élef, hol, un élef, kadosh. Alors, le Zohar, là-bas, il explique qu'en fait, nous sommes partis en galoute juste avant le 5e millénaire. 172 ans avant le 5e millénaire. Et on aurait dû aller en Galut combien de temps? 1000 jours. Un élève, les Hachelomons, 1000 jours. 1000 jours, c'est 1000 ans. Mais on voit que nous sommes restés près de 2000 ans en Galut. Alors pourquoi on est resté 2000 ans en Galut? C'est étonnant. Et parce que le travail qui aurait dû être produit, la récupération des énergies, on va en Galut pour réparer. Cette réparation-là qui aurait dû se faire sur 1000 ans, 1000 ans, c'est pas des jours, c'est des sphirotes, c'est des concepts qu'il faut chaque jour travailler et récupérer les énergies. On aurait dû récupérer ça en 1000 ans. Mais comme on n'a pas récupéré en 1000 ans, donc on les récupère en 2000 ans. Ça veut dire que nous sommes en 5780, nous sommes donc au 6e millénaire, le 6e Yesod, plus que 780 ans dans le Yesod, alors que c'était le Hod. Comme il dit dans Echa, Kol Hayom Dava. Dava, c'est Hod. En vérité, nous sommes dans le 6e millénaire. Mais nous réparons quoi? Nous réparons encore le cinquième millénaire. Nous n'avons pas fini de réparer. Nous n'avons pas fini de réparer les 1000 ans du Hod. Parce que au lieu de réparer les 1000 ans en mille ans, on n'a pas réussi à le faire. Donc les 1000 ans, ils se sont multipliés. Donc le travail qu'il y a en un jour, il se fait sur 50 jours, sur 100 jours, sur 200 jours. La question qui se pose, c'est que, alors quand est-ce qu'on va faire le travail du Yesod? C'est ça ce qu'il dit le Hari. Le Hari dit, ce qu'on dit dans le Kaddish, « Ba'agala au Bisman Karim », vite et rapide. C'est-à-dire quoi, vite et rapide? Il dit le Hari, il dit que « Yeratson », que nous réparions ce qu'il fallait faire, les 1000 ans, on les répare. Et alors, on est en 1950 ans de galoute. Mais le Yesod, il faut 1000 ans encore. Non, ce que tu dois faire, le Yesod, tu vas, le peu de temps qui reste, en quelques instants, tu vas réparer le Yesod. Le Yesod, il va se contracter. La réparation du Yesod, elle va se faire de manière contractée et concentrée. C'est-à-dire que, en un instant, tu peux réparer ce que tu aurais dû réparer en 10 jours, en 1 an, en 10 ans. C'est ça le concept même de la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'ils sont sortis en dehors du temps. C'est ça la sortie d'Égypte. C'est le temps qui se contracte. Donc il n'y a pas, le temps ne prend pas de temps. Behipazon, ça veut dire que ça a été contracté. C'est-à-dire que la sortie, elle se passe pas. C'est-à-dire que le pain, normalement, il doit gonfler, mais j'empêche les choses de prendre le temps qu'il faut. Et je le réduis, je le contracte, je le concentre et il disparaît. C'est comme si que l'espace-temps, il disparaît. Ça être simple, la délivrance d'Égypte. Il y a un autre point qu'il faut savoir, d'une importance capitale, que il y a deux directions. Rabbi Yitzhak Raver, il développe ça longuement dans sa dracha sur Chodesh Nissan. Il développe ça longuement. Il y a deux concepts de conduite du monde. Il y a deux concepts de la conduite. Il y a un concept qui est le concept naturel. Lors de la création du monde, il est dit Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Elohim, c'est la conduite naturelle de ce monde. Il y a des règles dans ce monde. Il y a les règles de la nature, les règles de ces pharaons. D'ailleurs, quand Moshe Rabbeinu, il va voir Pharaon, il lui dit Hachem, il dit, je connais pas Hachem. Moi, je connais pas le surnaturel, je connais que le naturel. Donc, il est tahat amazal. Avraham Avinu, dans ce système-là, il n'existe pas. Avraham Avinu, quand je vous lui dis, tu auras des descendants, il dit, moi, j'ai vu dans les étoiles que j'ai pas d'enfants. Il dit, d'accord, dans les étoiles, sous les étoiles, t'as pas d'enfants. Alors, il est sorti, il a mis au-dessus des étoiles, il a dit, là, tu vois les étoiles, tu auras des enfants comme ça. C'est-à-dire qu'en vérité, il a sorti du système. C'est-à-dire que dans le système de la création, Avraham, nous on existe. Am Israël n'existe pas dans le système naturel. Bereshit, Bara, Elohim, et Hashem, et Tares, il n'existe pas. Dans quel système il existe? Dans le schéma Vaya Baruchu qui va apparaître à la sortie d'Égypte. Donc les Makot, les 10 plaies d'Égypte sont la reconduction, des 10 paroles de la création au niveau du schéma Vaya. Ça veut dire qu'il n'y a plus de règles naturelles. Comme on dit, Ve'adata, Ve'ashevot Elohim, Haki Adonai, Hu, Elohim, Enod Milevado. Il n'y a rien d'autre que le schéma Vaya. C'est lui qui dirige, qui conduit, qui maîtrise. Notre destinée, elle n'est pas une destinée normale. Notre vie, elle est une vie miraculeuse au quotidien, dans le détail du détail du détail, comme il dit le Rambam. C'est-à-dire que nous avons vécu des instants terribles. On avait malheureusement des amis qui étaient très mal. Et on apprend subitement, le gars il s'est réveillé, on n'y croyait pas. On voit que la vie au quotidien, elle est un miracle. Et c'est comme ça. C'est à Kol Bertson Hashem. Notre vie, on n'a pas de raison naturelle de notre vie, elle n'est pas gérée de manière naturelle, elle est surnaturelle. C'est ce que dit Rambam. Cette direction-là, nous, on n'existe pas dans le monde de la destinée normale. on est Beshem Avaya Baruchu, En Od Milevado. Rien ne résiste à la volonté d'Hachem. Ça, c'est un fondamental. Et Rabbi Tzhak Raver, dans plusieurs de ses livres, il développe, il explique cela de manière fondamentale. Et c'est ça le concept même de la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, c'est le Gilui Shem Avaya Baruchu. Avraham Avinu, il n'a pas d'enfants dans la création du monde. Il a des enfants dans dehors de la création. Donc il y a deux systèmes parallèles qui ne se rencontrent jamais. Deux parallèles, c'est le concept même de deux parallèles qui ne se rencontrent jamais. Et c'est ça Pessah. Donc nous vivons dans un système parallèle au système du monde. Nous devons en être dignes. C'est ça le Yesod d'Aïmouna. La Emouna, elle transcende la réalité physique et des lois naturelles. Notre destinée, elle est en dehors de ça. Ça, c'est ça le guilouille de la sortie d'Égypte. C'est ça la raconter la sortie d'Égypte. Maintenant, quand on faisait le Corban Pessah. Le Corban Pessah, c'est en vérité quelque chose qui la Gemara dit Reuim Israël et Chol Pessah. Donc, en vérité, un Israël, il pouvait faire un seul Corban Pessah. Il n'y a pas besoin de faire 50 000 Corban de Pessah. Avec un Corban, on peut être acquitté. Un Corban. Mais ça, comme marqué la Gemara, donc, il touche, mais ça, Hatoto, Kolke Allah d'Israël. Tout Israël feront la chita du Pessah. C'est-à-dire quoi? Un Pessah? Oui, un Pessah. En vérité, c'est un Corban qui englobe tout. Il n'y a rien d'autre. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de ça au 26, je crois, une fois, que l'année dernière ou l'année d'avant, que tout le CDR de Pessah, c'est la reconduction du Corban de Pessah. En fait, nous, quand on fait le CDR, tout ce système que l'on fait du CDR, c'est le Corban de Pessah. Tout ça, c'est calqué sur le Corban de Pessah. Et qu'est-ce que le Corban de Pessah? C'est l'unité complète, totale de Am Israël, comme un seul cœur, comme un seul homme, comme un seul cœur, sous une seule bannière. Que Shem Havaya Baruch. Il n'y a que ça. Et la Brit Mila, elle est liée à ça, comme dit le Rambam. Cette notion-là, c'est la notion que nous devons puiser en nous dans la Haggadah. Et après, quand si nous avons conscience de ça, alors quand il y a eu le Korban Abayit, on n'a plus le Korban Pessah. Donc, la destruction du temple, l'exil a fait que nous sommes redevenus des individus, nous ne sommes plus une nation. Donc, quand on se réunit à la synagogue, la réunion à la synagogue, c'est la reconduction, on recrée un petit peu la nation juive pour un temps, pour le temps de la prière, pour le temps de la lecture de la Torah, pour le temps des mitzvot, on se réunit. Alors, quand on est à la synagogue, c'est comme si qu'on recrée la nation juive pour un temps. Après, on sort, chacun va à ses occupations. Mais là, maintenant, nous sommes confinés. On n'est plus, il n'y a plus de synagogue. C'est-à-dire que là, on a perdu même ce semblant de nation juive, il a été perdu. On est seul. Comment peut-on faire la prière seul? Comment peut-on faire les mitzvot seul? C'est ça l'idée. Que Rabbi Shimon, il s'est sauvé dans la caverne. Rabbi Shimon, il se sauve dans la caverne, il se détache complètement, il se retrouve en lui-même, au fond de sa caverne, comme dans la matrice, l'embryon dans la matrice. Et il se reconstruit. Maintenant, il y a une question qui se pose. Est-ce que notre génération, je voulais conclure avec ça, est-ce que notre génération vraiment, elle a mérité, quelle faute elle a fait pour mériter cette catastrophe qui s'est abattue sur elle? Est-ce que vraiment on a fait des averot? Est-ce que c'est une génération tellement dépravée, mauvaise? Est-ce que vraiment on mérite cela? Ou bien quelque chose d'autre qui nous dépasse? Alors je vous invite à lire ce que dit le Ramchal à ce sujet. Dans Da'at Tevunot, le Ramchal dit qu'il y a deux anagot. Il y a deux anagogues. Il dit ça aussi dans Derech et Haïm, à la fin, quand il parle de l'imoud de la Torah, et qu'il parle de ce qui s'est passé en 1648, ce qu'on appelle Gzerot Ahvetat, quand les Cosaques et les Tartares ont envahi la Pologne, ont massacré des centaines de milliers de Juifs. Alors là-bas, à cette époque-là, Rabbi Shimshon d'Ostropolis, ramène ce que Rabbi Shimshon d'Ostropolis, le fameux Rabbi Shimshon d'Ostropolis, qui a été tué là-bas à Cracovie par les Cosaques. Il dit qu'il est monté Bashamaim. Il a fait Aliyat Nechama. C'était un Kubal, il faisait Aliyat Nechama. Et il a attrapé le Sitra Acha. Il lui a dit, pourquoi tu fais des xérotes sur Am Israël? Alors il a dit, parce que vous êtes trop adoukim batora ou bamizvot. Il dit, arrêtez d'étudier, annulez une mitzvah, ne faites plus Shabbat, arrêtez d'étudier, ça va s'arranger. Il raconte ça à leur impact. Ça veut dire qu'on remarque que cette xérote-là, de Tah et de Tah, 1648, il y a eu des catastrophes en Europe. Des centaines, des milliers de Juifs qui ont été massacrés. Pourquoi? Parce qu'ils accomplissaient parfaitement la Torah. Dans notre génération, le Ramchal, il dit dans Atounot, il dit que il y a deux anagot. Il y a anagat amazal et anagat amishpat. Alors il dit comme ça. À l'époque de David, il y a eu une famine. Cette famine-là, pourquoi elle a eu lieu? Il dit parce qu'en vérité, la Gemara dit qu'elle aurait dû se produire à l'époque de Shaoul. Mais comme à l'époque de Shaoul, ils n'étaient pas suffisamment forts pour la supporter, alors on l'a amené, la Xéra, dans une génération qui va pouvoir la supporter. C'est ce que dit le Rambam. Ça veut dire qu'en vérité, si ça avait été juste par la faute de la génération, ils n'auraient pas eu cet avérage. Seulement, il y a quelque chose, il y a une réparation à faire. Il y a une prise de conscience à avoir. Il y a moyen de réparer le monde, la réparation globale qui concerne l'histoire de la destinée globale de l'humanité. Il y a quelque chose à réparer. Il faut faire quelque chose. Donc ici, en l'occurrence, c'est la famine qui arrive à l'époque de David. Seulement, elle n'aurait pas dû arriver à chez David. La faute, elle revient à une autre génération. Mais on va faire supporter la charge à ceux qui peuvent la supporter. Bien que, nous dit le Ramchal, que toujours la justice, elle va se faire avec justesse. C'est-à-dire qu'on va trouver une faille quelque part qui va permettre d'appliquer les deux. C'est-à-dire qu'il y a une erreur et une petite faille qui ne mériterait pas. Mais comme il y a une faille, alors on va dire à cause de ça, telle chose est arrivée. C'est-à-dire qu'il y a ici un concept, c'est que les choses nous dépassent. On ne voit pas une génération, quelle faute a fait la génération? Sûrement ça nous dépasse, on ne sait pas. Nul n'est prophète, personne ne sait le pourquoi et le comment des choses. Chacun y va de son commentaire, mais tout ça ne reste que des spéculations et des réflexions. Mais il est certain que les choses nous dépassent et qu'il y a un message que chacun doit arriver à retenir de cela. Il me semble que devenir adulte, c'est l'essentiel de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. Devenons adultes, c'est-à-dire prenons du recul, prenons de la hauteur. De la sincérité dans l'application des mitzvot. Sincère, appliquer les mitzvot avec sincérité. C'est un fondamental, c'est essentiel. Les gens, pourquoi on trouvait jamais le temps suffisant pour faire une prière correcte, par exemple? On trouvait jamais suffisamment de temps pour rester jusqu'à la fin de la prière. Ben, on est occupé, on est pressé. Donc en vérité, on ne trouvait pas le temps, on ne le prenait pas. Et là, subitement, nous avons largement le temps, confinés, enfermés, à l'intérieur, seuls. On a largement le temps de réfléchir, de méditer, de prendre du recul sur les événements. Qu'est-ce qui a de la valeur? Qu'est-ce qui n'a pas de valeur? C'est à quoi doit-on donner de la valeur? Agir avec sincérité. L'essentiel, c'est pas d'accomplir les mitzvot. L'essentiel, c'est de faire les mitzvot. Évidemment qu'il faut les faire, mais faire avec sincérité. Alors, le concept même de la halakha, il est souvent détourné. C'est-à-dire qu'à quoi ça revient à la halakha? Alors on vous dit, alors on va prendre le cas de Hametz. Alors le Hametz, il faut le brûler, il faut le détruire. Mais j'ai des bouteilles de whisky, alors je les vends. Il dit, pourquoi tu les vends? Pourquoi tu les détruis pas? Il dit, mais ça coûte de l'argent. Il dit, voilà, mais si la Torah t'a dit, détruis-les, t'as pas dit, ça coûte pas. Alors on fait des détournements. En fait, c'est vrai que Chachamim, ils ont trouvé un moyen pour les aubergistes, pour ceux qui avaient des grosses affaires, des business, ils vendaient de l'alcool en Europe. Toutes les auberges étaient données aux Juifs. Donc, à Pessah, comment ils vont faire avec la vodka? Alors, ils ont trouvé un truc pour qu'ils ne perdent pas leur pain dans ça. Ces gens-là, on leur a fait la vente. Maintenant, les gens, ils gardent ça, ils ont trouvé que c'est comment on fait bitoul, on vend. Donc, on fait un contournement, on arrange, on s'arrange. Où est la sincérité là-dedans? Je n'ai pas dit que c'est pas juste d'un point de vue juste halakha. Halakha, c'est sûr que certainement que c'est vrai. Mais est-ce que c'est ça qu'un joueur fou, il veut de? Il y a des gens, ils ont dit, on va faire Tfilat Kelim. Ah, comment on va faire Tfilat Kelim? Alors, on va vendre les Kelim au Goy. Mais qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi ce contournement? On vend les Kelim au Goy. Est-ce qu'on a compris vraiment qu'on doit être sincère? On ne peut pas. Quel est le sens? Est-ce que c'est une vraie vente? Et chaque chose va dans la même direction. C'est-à-dire que l'idée qui me vient, c'est que rares sont ceux qui ont pris, il me semble, conscience de la réalité du message qui nous est transmis. Et que la réflexion est identique à ce qu'elle était avant le coronavirus. Avant cet événement-là, comment on réfléchissait? On réfléchissait là et on continue à réfléchir de la même manière. On n'a pas pris de hauteur. On n'a pas pris conscience, réelle conscience de ce que HaKadosh Baruch Hu veut de nous. C'est ça la différence. Et quand Rabbi Shimon Bar Yochai sort de sa grotte, il est encore dans ce concept de rigueur. Il ne supporte pas que lui et son fils, que les gens vaquent à leurs occupations. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors que je vous dis, retourne dans ta grotte. Quand il ressort, là, il voit un bonhomme avec deux bas de hadas, deux feuilles de hadas. Il dit, où tu vas? Il dit, c'est pour Shabbat, j'ai Shabbat à la maison. Donc, ils ont pris conscience qu'il y a un petit coup dans ce monde, qu'il y a une adaptation, une conscience adulte. Ça veut dire que la vision que j'avais jusqu'à présent du monde, de ma conception du monde, elle doit changer. Et c'est là que chacun d'entre nous, il doit se remettre en question. C'est-à-dire que le discours, la réflexion, l'humilité, les gens, il y a des gens qui racontent à tort et à travers les idées, les prophéties, des trucs à dormir debout, que je ne sais même pas si eux-mêmes ils croient à ce qu'ils racontent. C'est-à-dire, c'est tellement ridicule. Il y a des gens qui se ridiculisent depuis 30 ans racontant des histoires à dormir debout. Chaque semaine, une nouvelle histoire qui ne se réalise jamais. Il faut, la Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est accomplir la Torah et les mitzvot. Le Mashiach, il vient pas, c'est pas mon problème. Moi, je veux faire Avodat Hashem. Je dois donner entière satisfaction à Kadosh Baruch Hu. Si Kadosh Baruch Hu, il veut amener le Mashiach, il amène le Mashiach, c'est mon problème. C'est pas, je fais la Torah et les mitzvot pour obtenir quelque chose. Torah, mitzvot, tu le fais pour rien, ça n'apporte rien. C'est juste pour donner satisfaction à Kadosh Baruch Hu. Comment je dois faire Torah, mitzvot? Avec ferveur, ardeur, passion, enthousiasme, de toutes mes énergies, puiser en moi les énergies pour faire la Torah et les mitzvot. C'est ça, qui aime Hayenu, veut rien qu'aimer. Quand j'arrive là, quand j'arrive à ce niveau-là, à ce moment-là, je vais dire le Hayenu. C'est à ce moment-là que je vais raconter le Hayenu. Je vais louer, élever, le Hallel, un chant, Birkat Hashir, ce que nous appelons Birkat Hashir, le Hallel, le Hodot, le Hallel, le Shaber, la Kadosh Baruch Hu, Alkol, la Tova, Shahasadam. Cette prise de conscience, que j'ai une conscience telle que j'ai pris de la hauteur, je comprends que le monde, il a été créé que pour moi, pour que je puisse m'adonner à la Torah, aux mitzvot. Avoir cette prise de conscience-là, c'est l'essentiel. C'est pour ça qu'on conclut par le Hallel. Je vous laisse maintenant poser vos questions, si vous avez des questions. Sinon, on a conclu.
Alors, pour les questions, peut-être qu'on va écrire comme on est, Bléinara, nombreux. On va voir s'il y a des messages.
Vas-y.
S'il y a des messages qui sont écrits. Tu as une question?
Alors, vas-y, je vous écoute. Si tu as des... Dis-moi, dis-moi. Donne la parole à... Ah, je vois Denis, là.
Alors, attends, j'ai une question d'Alexandre. Denis, je... Oui.
Alors, je vais dire un message à Denis. Denis, j'ai entendu une très bonne nouvelle. Bon,
attends. Tout le monde t'entend, Michel. Hein. Vas-y, on t'entend.
Vas-y. Il y a quelqu'un qui parle. Il y a une question.
Attends. Mais ce qu'on va faire, non, mais ce qu'on va faire, ceux qui veulent poser une question vont lever la main et je vais libérer les micros. On va faire comme ça va être plus simple. Alors, je vais essayer de voir. Alors, est-ce que quelqu'un a une question à poser en vocal ou pas? Michel, tu m'entends?
Tu lis les questions?
Alors,
écoute,
je vais te lire là. Là, je vois quelques questions. Alors, on te dit 3 matzot pour la bracha de Moussi et achilat matza, c'est 2 mitzvot et il faut les chem mishne. Bon, ça, c'est une question de halakha plutôt.
Mais non, mais une question d'Alakha, je t'explique. Que normalement, on devrait faire deux matzot. On ne fait pas 3 matzot. Mm-hmm. Mais comme on va prendre une matza coupée, puisqu'on a dit on coupe, alors on ne va pas faire un moti avec un matza et demi. Donc, on prend 3 matzot. C'est pour ça qu'on prend 3 matzot. Mais à partir de là, on se rend compte que c'est Chokhma bin Aladat. Donc, il y a trois niveaux dans le savoir, le discernement et la conscience. Chokhma bin Aladat. C'est ça l'idée.
D'accord. Alors, autre question. Quelqu'un dit, on peut refaire le compte des 4 coupes de vin 86.
Alors, normalement, on aurait dû rester 430 ans d'Égypte. Ce qui fait, c'est pas, il y a un passou qui a deux psoukim dans Parashat Bo qui disent qu'on est resté 430 ans en Égypte. 5 fois Elohim. Parce que Hamisha Gvurot, Elohim, c'est la rigueur. Donc, Avraham Avinu, juste un point. La Gemara, elle dit dans Nedarim, pourquoi on est parti, on a été puni en Égypte. Il dit parce qu'Avraham Avinu, il a fauté. Avraham Avinu, il a fauté. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, la Gemara dit, elle donne plusieurs versions. Entre autres, elle dit, Bama Edaki Rachena, comment je vais savoir qu'ils vont hériter de la terre? La Gemara, elle cite avec plusieurs trucs qu'Avram, il a fait des fautes. La question, elle est, Avram Avinu, il faute. Et nous, on va payer l'addition de Avram Avinu. C'est pas logique. Où est-ce qu'on a vu que Avram Avinu, il faute? Et nous, on paye les pots cassés. Ça n'existe pas. C'est lui qui a fauté. Le père, il a fauté. C'est le père qui paye. Le fils, il a fauté. C'est le fils qui paye. Pourquoi le fils, il va payer la faute du père? En vérité, ici, il y a ici un concept. C'est ce qu'Abraham Avinu, il a dit. C'est ce qu'il dit à Arizal. Arizal, il dit, si Abraham Avinu, il a dit, comment je vais savoir que la sortie d'Égypte sera un peuple organisé? Il dit, tu veux, c'est aussi une garantie certaine que quand Bnei Israël, ils vont sortir d'Égypte, immédiatement, ils sont organisés. C'est ça le galou. C'est ça l'idée que le Hari dit dans Shara Kavanot, dans le premier Darouche de Pessah. Il dit, c'est ça, ce que Akadosh Baruch Hu, il a garanti à Abraham. Tu veux avoir Eretz Israël? Un peuple organisé? Eh ben, c'est le galout. Donc, le galout, c'est ça qui va permettre à Israël de se former en tant que nation organisée. Donc, ils sont restés 86 ans. Ils restent 4 fois 86. 4 fois 86, c'est l'Arba Kosot. Ils sont partis dans les 4 galoyotes, Babel, Paras, Umadai, Yavan et Edom. Mais c'est sûr que c'est pas en année, c'est en concept. Donc j'ai répondu à la question.
D'accord. Alors, autre question. On te dit qu'ils aimeraient avoir, au niveau du plateau de la Kaara, que représente chaque aliment?
Ah, bon, il faut faire un autre cours.
C'est un autre cours. Alors justement, parce qu'il y a aussi une question, Kol HaKavod, à quand le prochain cours? Donc, on va essayer d'organiser ça, Bezrat Hashem, rapidement.
Voilà. Faire demain. Je sais pas, là, parce que c'est quand c'est, on est quel jour aujourd'hui?
Là, on est aujourd'hui lundi. Demain soir, c'est la Bdikat Hametz. Peut-être demain dans la journée?
Ouais, demain dans la journée, si vous voulez.
On va voir, peut-être demain, on remet ça à 15h, on verra, on fera un petit sondage, peut-être demain 15h.
Il y a quoi encore comme question, encore une ou deux questions?
Alors, autre question, l'eau salée, pourquoi ne fait-elle pas partie des 10 éléments?
Non, le salé, bon, Arisa, il ne la met pas dedans. Il met, d'ailleurs, il met, parce que le salé, elle fait pas partie, parce que tu vas te retrouver avec 11 alors. Mais on met le comment on appelle ça, on met le haroset. En vérité, l'eau salée, parce que dans le machma de la Gemara, que quand on trempe dans le haroset. L'eau salée, c'est en plus. Et vient en plus. Si je me rappelle bien.
D'accord.
J'ai vu une autre question là, Reb Shimshon d'Ostropoli, il y en a qui veulent.
Oui.
T'es avec moi?
Oui, oui, tout à fait.
Alors?
Est-ce que, à la limite, le chiour de demain, si on le fait à 15h, on pourrait faire en même temps, les éléments de la Kehara et puis en même temps sur la lettre de Rabbi Shimshon de Ostropoli?
D'accord, si vous voulez.
D'accord.
Tiens-moi au courant.
D'accord, Bezrat Hashem. Autre question, tu la lis peut-être. Le fait d'être accoudé d'après le Harizal, quel est le sens?
Ah, le sens, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. Le concept même de accoudé. Parce que en vérité, est-ce que Moshe Rabbeinu il était accoudé? Comment on mangeait le corban de Pessah? Est-ce qu'on mangeait accoudé? Qui est-ce qui a inventé le concept de accoudé? En vérité, c'est un truc de romain, c'est un truc de grec et de romain, le symposium romain. C'est-à-dire que Chachamim, ils ont adopté une attitude ou un comportement que les goyim, que les princes goy, que les puissants des goyim, ils avaient pour manifester leur puissance et leur liberté, etc. Ils l'ont adopté, ils l'ont inclus dans le seder de Pessah. C'est pratiquement comme ça qu'on mangeait le corban de Pessah. Ils l'ont adopté. Pourquoi? Parce que c'était la marque de la délivrance. C'est-à-dire que celui qui s'accoude, c'est comme ça que les puissants ils mangent. C'est-à-dire qu'il y a rien au-dessus de. C'est-à-dire que le roi il a peur de personne. Comme il y a marqué, il a que la peur de Dieu seulement. C'est ça le concept. Alors d'après le Harizal, il faut s'accouder. C'est évident qu'il faut s'accouder. C'est pas suffisant de ne pas s'accouder.
D'accord. Alors, on a une question de Sylvain, qui a d'ailleurs la parole.
Je n'entends pas.
Michel.
Oui, frérot.
Bokaltov, dis-moi, je voulais te demander, au niveau de la vente du Hametz que tu as dit, là, ouais. je comprends très, très bien que nous, on n'est pas commerçants, on est des petits juifs. Normalement, tout le hametz qu'on a, on doit le liquider si on peut. Mmh. Toujours avant ça.
Ouais. Exact.
Très très bien. Je comprends très bien. Par contre, lorsque j'achète quelque chose que j'ai acheté, que je dois emmener au mikvé, et que là que je suis en confinement, comment je fais pour utiliser? Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser une fois ou pas?
Si tu n'as pas le choix, écoute, moi je dis comme ça. Qu'est-ce que les gens ils font? Ils vendent au goy parce qu'ils ont trouvé un système, un contournement de vente au goy. Si moi j'ai obligé d'avoir une marmite, je peux pas la tremper. Oui, je vais la tremper. Il n'y a pas de mikvé. Alors quoi? J'ai pas de marmite. Comment je fais? J'utilise. Comme ça, je sais que à la première occasion que j'ai, je vais la tremper au mikvé. Mais non. Mais vas-y que Béhara, tu es honnête. Moi, je suis honnête. Si tu as une marmite, tu n'as pas trempé au mikvé. Tu n'as pas de marmite. Je sais pas. Il te montre comment tu fais. Tu es honnête. Ah non, ce n'est pas la patrie. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire un traduit, de faire un compte de vendre à un goy, je sais même pas, le goy, il est au courant que je lui ai vendu ma marmite. Oh, je sais pas, moi, tout ça, ça me plaît pas. Parce que ça semble pas être quelque chose de droit et de juste. Tu vois ce que je veux dire? C'est des contournements, des trucs juridiques, des arrangements juridiques.
D'accord, c'est-à-dire que si, d'accord, c'est-à-dire que si je l'utilise, exceptionnellement, ouais. Je ne fais pas de Avera.
Mais je suis Anous. Pourquoi je ferais une Avera? Je suis Anous. D'accord, ok, Michel. Je suis un cas de force majeure.
Oui, toutes les synagogues sont fermées.
Donc, on est dans un cas de force majeure. Pourquoi je fais une Avera? Qu'est-ce que j'ai besoin de me trouver? Anous Rahamana Patré. Et on est parti chercher que le Anous, il est obligé de vendre un goy. C'est quoi ce truc-là? Pourquoi faire? Je comprends pas. Et après, ils te disent, il faut pas faire la bracha après quand tu les trompes pas. Après, j'ai pas compris pourquoi. Après, ils ont dit qu'on doit pas faire la bracha si après le goy tu le rachètes, tu trompes dans un mois, tu vas la tromper, tu fais pas la bracha. Pourquoi tu fais pas la bracha? J'ai pas compris ça aussi. Pourquoi? C'est-à-dire que la vente, c'est une vente bidon, c'est une vraie vente. Comment ça marche? Je sais pas. Moi, la vérité, j'aurais pas vendu au goy la marmite. Je vends pas ma marmite au goy. Si j'ai besoin d'utiliser, j'utilise tel quel. Hanus Rahamana Patré. Il y a quelqu'un qui m'a posé une autre question. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit. J'ai vu quelqu'un qui a posé une question. Je ne sais pas comment il s'appelle. David. J'ai vu une question apparaître. Je n'ai pas eu le temps de lire.
Oui, Michel, tu en as quelques-unes. Là, il y a quelqu'un qui demande, pourrions-nous avoir le poids exact des casettes de Matza et de Maror? Bon, question de Halakha.
Alors, sache que Kazaï de Matza et Maror, c'est en volume, d'accord? Donc, il y a une mahloquette d'aposkim dans ça. Écoutez, moi, je vous dis, les amis, celui qui est en forme, qui aime la Matza, et la Matza, elle est bonne, tu ne comptes pas quand tu manges. Tu manges, tu peux manger un kazaït, ça peut faire 40 grammes, 30 grammes à l'aise. Quelqu'un qui a du mal à manger, il est fatigué, il est vieux, il peut se contenter de 15 grammes, 14 grammes, 15 grammes en matin.
Ok. Tu as une autre question?
Kazaït en volume, il y a beaucoup de mahlokot dans ça.
Alors, tu as. Alors, Michel, quelqu'un demande pourquoi le peuple sort adulte pour ensuite redevenir enfant.
Non, alors le peuple il sort adulte et chacun il sort avec une conscience adulte, c'est-à-dire que le c'est une nation organisée. Mais donc quelle est ta place à toi individu dans cette nation-là? Tu dois construire. Parce que c'est ce qu'on doit arriver le jour de Shavuot, qui ish ehad velev ehad. Et ça, c'est une acquisition personnelle. On te retire ça. Mm. C'est-à-dire que c'est la raison d'être de Pessah. C'est la raison d'être du premier jour de Pessah. C'est-à-dire que Am Israël il sort dans une conscience adulte, organiser un peuple avec ses institutions. Mais chaque individu après, il doit retrouver sa place. Parce que en général, on comprend que est-ce que l'intérêt du peuple il passe avant l'intérêt individuel. Généralement, quand tu dis l'intérêt de l'individu, alors je mets en avant l'intérêt de l'individu, alors il repousse l'intérêt général. Comment on arrive à faire la part des choses entre l'intérêt individuel et l'intérêt général? Comment tu trouves que l'intérêt individuel ne contredit pas l'intérêt général et inversement? C'est ça l'idée. Et quand ils sortent organisés, et à partir de là, donc ça c'est donné. Pour ça que le premier jour de Pessah, il s'appelle Shabbat. On dit dans Sfirat en mer, Usvartem lachem imahorat à Shabbat. Vous compterez le lendemain de Shabbat. C'est quoi le lendemain de Shabbat? C'est le premier jour de Pessah, il s'appelle Shabbat. Parce que tu n'as rien fait pour le mériter. Il t'est donné gratuit. Kadosh Baruch Hu te l'a donné. Et à partir de là, tu comptes. C'est quoi? Tu comptes, tu dois acquérir cela. Ramoshé Shapira, il a de longs développements sur ce concept-là. Donc, c'est l'acquisition. Comment tu retrouves ta place dans, 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 dans l'organigramme de l'Am Israël. Ce n'est pas contradictoire.
D'accord. Tu as une question? Quelqu'un demande, il dit, on fête Pessah, même on raconte la même chose chaque année.
Et alors?
Alors, je ne sais pas. C'est la question telle qu'elle est dite. Peut-être que quelqu'un demande, comment ça se fait qu'on dit la même chose chaque année? Est-ce qu'il y a quelque chose… Il y a un sens à ça, à répéter chaque année le même CDR?
Oui, bon, mais tous les jours, tu fais la même prière.
Ok, allez, dernière question pour aujourd'hui. Dernière question, on dit, où trouve-t-on un remès de Pessah à l'époque d'Adam Harishon?
Sûrement, Adam Harishon, il a mangé en avant, c'est-à-dire qu'il a, c'était le chita. Il a mangé du chita, c'est du blé.
Du blé.
Il y a quatre niveaux, Adam Harishon. Le Het Adam Harishon, il se lit. L'arbre, il a quatre niveaux. Alors, en moi, il est un trog, après, il est une vigne, après, une téna, et après, il est un hita. Donc, c'est à quel niveau, quand tu arrives au niveau du hita, c'est exactement la faute de Pessah. C'est le Hamet. Il a mangé Hamet. Il a mangé Hamet, Adam Harishon.
Ok. Alors, merci et beaucoup, Michel.
Où est-ce que tu as vu une fête qui commence à la mi-journée? Que le issour de Hametz, il commence le 14 à la mi-journée. Pourquoi il commence le 14 à la mi-journée? Pourquoi il ne commence pas le soir? Parce qu'en vérité, c'est un lien avec Het HaEgel. Parce que Moshe Rabbeinu, il a dit « Ki boshesh Moshe » et il est arrivé 6 heures en retard. Voilà. Est-ce qu'on compte les 6 premières heures ou pas? Donc, pour réparer Het HaEgel, ce retard-là de 6 heures, alors on a donné 6 heures avant. Le Issour Hametz. Issour Hametz, il a un lien avec Het HaEgel.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Michel.
De rien.